Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, nous retrouverons Laurent Egui pour un journal tumultueux, mais d'ici là, un tumulte musical. C'est le contenu de ce tumulte numéro 973. Jean au micro, salut. Fantasio, joyeuse Europe sans rituel. C'était Fantasio. On écoute maintenant Origine Contrôlée, le nouveau projet de Mousse et Hakim, projet consacré aux chansons de l'immigration algérienne. Asghar.
عجمي
Sur Radio PFM 99.9 et dans une vingtaine de minutes, le journal de tumulte avec Guy et Laurent. Sean Couty, nouvel album Menacing.
Water to drink, hey, nowhere to stay. many things. I don't see many things. We make me think many things. We tell you me pass anything. We make me think many things. We tell you me pass anything. When my people they live on the bridge and on top of water, when I hear the nonsense things our leaders they do. When I see the yoga of police in prison for stealing, when I hear education minister in scandal for stealing, I don't hear many things. I don't see many things. I don't hear many things. I don't see many things. We make me think many things. We tell you me pass anything. We make me think many things. We tell you me pass anything. When you turn television and you listen to the radio. When you turn television and you listen to the radio, you could see the things them do. You could hear the things them say. You could see the things them do. You could hear the things them say. Corruption, you could see the inflation, you could see the suffering, suffering of the people. I don't hear many things, I don't see many things, I don't hear many things, I don't see many things. We make me think many things, we tell me pass anything. We make me think many things, I say, we tell me pass anything.
On écoute maintenant John Zorn, extrait de son dernier album parmi une production foisonnante, The Dreamers. John Zorn, qui est en plein dans l'actualité française et en particulier parisienne, puisqu'il est toute la semaine sous différentes formules en concert à la Cité de la Musique. L'extrait qu'on écoute de The Dreamers est dédié à Lou Reed, aux côtés de John Zorn, notamment Ciro Battista aux percussions, Joe Baron à la batterie, Marc Ribot à la guitare. Thank you. Et après The Raptures, on écoute Michel and DJ Ocello, extrait de l'album Cookies and Anthropological Mixtape. Oui, aïe, aïe. Look at here. Et après Michel, ce sera le journal de tumulte avec Guy et Laurent. Journal de tumulte avec Guy et Laurent sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Et au sommaire de ce journal, eh bien, on va faire dans l'éclectisme et le divers et Une fois n'est pas coutume, on va causer. On va causer différentes choses, un peu improvisées. Hein. Ça sera la dernière de l'été avec Laurent, hein, Guy.
Tout à fait. C'est un peu discussion de bistrot, quoi. Mais il n'y a rien à boire, là. Alors, mais qu'est-ce que... Jean ?
On va commencer quand même par des choses sérieuses, en tout cas fortement d'actualité, avec la question du trou de la sécu. Alors vraiment, il y a un déficit de la sécu aussi important que ça, Laurent ?
Bon, il y a d'abord un déficit, tous les régimes ne sont pas en déficit, et l'un de ceux qui est entré depuis quelques années dans une accumulation de déficit, c'est le régime de la santé, de l'assurance santé. On sait que sur l'assurance vieillesse, à moins qu'on rehausse les cotisations d'ici 2012, entre 2012 et 2020, il va y avoir également un déficit. Par contre, du côté de l'assurance chômage, on est en train d'accumuler des excédents de plus en plus importants et même extrêmement importants, qui sont dus au durcissement de conditions d'indemnisation des chômeurs. Enfin, toujours est-il que pour la branche santé, effectivement, les déficits sont en train de se creuser, tout simplement. Alors là, monsieur de la Palice pourrait le dire, parce que les recettes n'augmentent pas aussi vite qu'augmentent les dépenses. Et le gouvernement, en particulier le ministre du budget, Eric Woerth, avait demandé il y a quelques jours à la Sécurité sociale et à son directeur de faire des propositions pour faire des économies et redresser les comptes du régime de l'assurance maladie. Et bien c'est fait, les propositions sont
arrivées. Et il s'est lâché.
Et il s'est lâché. Effectivement, il s'est lâché.
Qui est-ce qui s'est lâché ?
Le directeur de la Sécurité sociale, qui s'appelle M. Frédéric Van Rokkegem. Alors, parmi les propositions qu'il fait, il y a toute une batterie de propositions. Hein. Évidemment, il y en a une dont l'actualité a retenu aujourd'hui. Mais il y a une batterie importante de propositions, parce que son ambition est tout de même de trouver 3 milliards d'économies dès 2009, hein, pour un retour prévu à l'équilibre d'ici 2-3 ans. Et parmi ces mesures, alors, il y en a une dizaine. Il y a l'amélioration du recours contre tiers, ça c'est une petite chose, la lutte contre les fraudes, l'organisation des soins, l'amélioration de la productivité de l'hôpital, l'économie sur les frais financiers. Alors, l'économie sur les frais financiers, c'est tout de même pas bénin. C'est qu'effectivement, si on redressait le déficit de la branche maladie, on pourrait faire rapidement 400 millions d'euros d'économie, tout simplement sur l'intérêt de la dette du régime. Autre mesure d'économie, sur les médicaments qui seraient remboursés, ou sur le prix des médicaments, et puis sur la maîtrise aussi des prescriptions médicales, et puis on attend également des recettes supplémentaires. Là, cette fois-ci, liées à la croissance, même si elle sera faible, elle générera tout de même des croissances supplémentaires. Mais parmi toutes ces mesures, celle qui et aujourd'hui a retenu l'attention, c'est la proposition de diminuer fortement les remboursements, de modifier même carrément le mécanisme de l'affection longue durée, qui permet à 8 millions de personnes, à peu près, qui ont des maladies longues, type cancer, voire très longues ou perpétuelles, comme le diabète, de modifier ce régime qui leur assure la prise en charge à 100% des médicaments. Alors, le modifier de deux manières. D'abord, en sortant de la liste des affections de longue durée un certain nombre d'affections, pour ne plus reconnaître leur caractère de longue durée et donnant droit à la prise en charge à 100%, et puis de retirer également, alors pas de retirer, mais de dérembourser de manière assez brutale un certain nombre de médicaments de la liste. Alors, par exemple, c'est-à-dire de faire passer du taux de remboursement de 100% à 35% l'ensemble des médicaments qui sont dotés d'une étiquette bleue. Alors, en gros, les médicaments qui sont dotés de l'étiquette bleue, ce sont ceux qui ne sont pas jugés les plus efficaces et les plus centrales dans l'affection qu'on est censé soigner. Alors, il y a certains médicaments qui sont sur vignette bleue, comme certains aspirines, certains antidouleurs ou certains médicaments qu'on dit de confort qui sont en vignette bleue, ben, celles-là ne seraient plus remboursées à 100%, mais à 30%. Ce qui est assez notable dans cette affaire, c'est que le montant des économies qu'on en attend n'est pas ébouriffant. C'est 249 millions d'euros en régime annuel. Et il est assez bizarre quand même que on fasse cette proposition, alors même que par rapport au problème des 3 milliards, ça ne représente qu'un dixième du problème. Or, sans doute, c'est quand même ces gens-là qu'il faut aider en priorité. Bon, donc c'était sans doute pas là qu'étaient les économies principales à réaliser. 240 millions d'euros, ça semble pas grand-chose, mais quand ça tombe sur seulement 8 millions de personnes, ça fait à peu près 30 euros par personne et par an. Alors là encore, on pourrait dire, oui, bah c'est 30 euros par personne et par an, c'est pas énorme. Mais en fait, ces choses sont très inégalement réparties. Des personnes sont lourdement atteintes de maladies qui nécessitent des soins très importants. Et pour elles, ça peut être beaucoup plus.
Alors, ces annonces ont fait l'effet un peu d'une bombe. Les organisations syndicales, les organisations de médecins... On réagit très très vivement et le gouvernement a dit que il n'allait pas suivre l'ensemble de ces mesures, qu'il allait choisir. Du coup, le gouvernement apparaît comme modéré face à une telle annonce. En même temps, on peut se dire que si Monsieur Van der Rokkegem, si je ne me trompe pas.
Van der Rokkegem.
Voilà.
C'est un sacré nom.
S'il fait ses propositions, c'est sans doute.
S'il s'est lâché, c'est parce que d'une certaine manière, il s'est cru autorisé et que ça va quand même dans le sens des mesures gouvernementales précédentes où ouais. Il était question finalement de faire payer un peu plus ceux qui sont malades au profit de.
Oui, alors faire payer plus ceux qui sont malades ou reporter sur le système des mutuelles les compléments de remboursement. Bon, c'est-à-dire en fait, si on débarrasse le problème de toutes ces scories politiques et pour en retenir que l'effet économique, ça veut dire de toute manière programmer une augmentation des cotisations, mais qui ne dit pas son nom et qui va être inégalement répartie parce qu'il y a ceux qui pourront monter en charge sur les cotisations à leur mutuelle et puis il y a ceux qui pourront pas. Bon.
Ah mais c'est ce que tu disais, Jean, c'est le principe des franchises médicales. C'est la même idée, c'est qu'on fait payer les malades. Hein, donc il n'y a plus d'esprit de solidarité entre malades et non-malades.
Non mais effectivement, hein, toutes les mesures, une grande partie des mesures d'économie qui sont préconisées, ce sont des mesures de déremboursement des médicaments. Soit on baisse le taux de remboursement de ces médicaments, soit on les sort des listes de remboursement et puis on ajoute des forfaits sur les prestations de spécialistes ou d'hôpital pour faire le complément. Mais quand on regarde les choses, il s'agit quand même de bouts de chandelle et c'est ça qui est assez bizarre qu'on tienne à ce type de...
Globalement, à l'échelle de...
À l'échelle du problème, ouais. Hein, c'est quand même des bouts de chandelle. Quoi.
Bon, pour les gens, ça les...
Mais pour les gens sur qui ça tombe, qui sont déjà malades et donc qui cumulent sans doute d'autres problèmes par ailleurs, parce que les affections de longue durée, elles peuvent être handicapantes au niveau du travail et donc créer des diminutions de ressources assez conséquentes pour les personnes concernées. Donc on est quand même à peu près sûr que ça tombe pas sur les gens qui ont une faculté contributive énorme. Et de toute façon, au bout du compte, ça va se traduire par une charge supplémentaire pour les mutuelles qui vont proposer des couvertures améliorées pour finalement boucher les trous de ce qui n'aura pas été fait par le régime général. Mais là, l'effet va être carrément inégalitaire parce qu'il y a ceux qui pourront suivre la montée en charge des cotisations de mutuelles et puis il y a ceux qui pourront pas. Et vraiment, il faut le dire, c'est assez inintéressant comme façon de procéder dans la mesure où c'est... où on voit bien qu'il y a d'autres échelles, enfin que c'est pas à l'échelle de la solution du problème. Hein. S'il y avait 0,05 point de plus de cotisation sociale pour l'assurance maladie, tout de suite ça se compterait en milliards d'euros hein, et pas en millions d'euros. Bon, ceci dit, derrière, il y a tout de même une vraie question. Pour la société dans son ensemble, jusqu'où voulons-nous aller? Pour nous protéger contre le risque de la maladie et le risque d'une mort prématurée. Bon, cette question mérite d'être posée, mais elle mérite d'être posée collectivement. et non pas de en douce et en faisant finalement rattraper les choses par la bande et en rendant le système de plus en plus inégalitaire. Je pense qu'on peut pas toujours dire que il faut augmenter les dépenses de santé. C'est pas forcément anormal, mais on doit avoir un débat collectif là-dessus pour savoir combien de points de PIB on veut consacrer à notre santé. Et ceci d'autant plus que quand même techniquement aujourd'hui beaucoup de choses deviennent possibles. Et c'est ça qui rend la situation très très difficilement gérable politiquement. Les progrès techniques, les progrès dans les médicaments, les progrès dans les thérapies, etc., permettent effectivement de mieux soigner les gens, mais à des coûts qui ne vont pas décroissants. Donc on est tenté d'aller toujours plus loin dans les dépenses qu'on consacre à notre santé. Je pense qu'il faut quand même avoir un débat politique si c'est pour savoir, d'une manière générale, si c'est l'immortalité qu'on cherche et à quel prix on le veut.
Tu peux en donner
mais
le
pas
nom.
Comme ça.
Non, tu peux en donner le nom du monsieur là.
Monsieur Frédéric Van Rockeghem.
Bon, Rockeghem, c'est pas des mesures très rock'n'roll, hein, mais pourtant, moi je trouve que c'est.
Attends, il c'est pas encore. C'est pas encore la partie qui a fait du commerce.
Non, genre Rockeghem, genre la musique.
Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Ils ont changé ma chanson.
Look what they done to my brain, man. Look what they done to my brain.
Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, man.
Look what they done to my son.
Ils ont tradé ma chanson, man. Ils ont trahi ma chanson.
Ce n'était rien qu'une chanson,
mais c'était ma chanson, moi. Ils ont changé ma chanson. Ma chanson, et c'est la seule chose.
choses que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Ils sont changés, ma chanson.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Le journal de Tumulte avec Guy et Laurent. On vient d'écouter, d'entendre Arnaud, Guy. C'est extrait de son dernier album.
Avec qui, Jean, il chantait là.
Ah ouais, vas-y, pose des cols comme ça. Bah, si vous avez, si vous savez qui est l'autre personne du duo avec Arnaud, vous nous appelez.
Voilà, ouais. C'est le dernier disque apparemment sorti, mais c'est pas un disque inédit, c'est une compilation de réinterprétations de chansons très connues par Arnaud et puis parfois
non. C'est pas Bédo. PJ Harvey, non.
Non, je pense non. Pas. Hein, non. Replonge-toi dans tes trucs là, Laurent.
Bon, allez, Laurent, tu vas nous parler.
Attends, dis quand même donne le titre de l'album.
Ah ouais, il faut.
Il est marqué dessus. Mais non, il est pas là.
Sur quoi encore?
Bah, il est marqué sur le CD. Hein.
Ah ouais, alors faut sortir le CD, ah tu vois, on va voilà, tout de suite.
Bah voilà,
les
voilà.
Sacré,
ah ouais, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de marqué? C'est parce que j'ai perdu la boîte.
Overs Cocktail, c'est ça?
Cover.
Covers Cocktail.
Voilà.
Covers Cocktail. Il a perdu la couverture, ça crie. Bon, allez, on parle du pouvoir d'achat, parce que Guy, il écoute la radio, les spots. Radio, d'ailleurs.
J'ai pas entendu. J'ai entendu un spot.
Ouais, moi, j'en ai
entendu. Mais je l'ai entendu sur France Culture ce matin, parce que c'est le ministre, toujours le même, hein, Éric Woerth, qui était invité, qui est le ministre de la fonction publique, de beaucoup de choses, la fonction publique, des comptes de l'État, je crois, c'est ça, des comptes de l'État,
des budgets,
des comptes de l'État et de la fonction publique. Donc c'est aussi lui qui est un peu à l'initiative de tout ça. Et donc il y a une campagne. Et apparemment, donc ce qu'on nous dit, c'est pouvoir d'achat. Vous êtes impatients, nous aussi. Hein, l'idée, c'est ça. Donc une campagne média. Télé, radio, presse écrite, je sais pas, enfin j'ai rien vu dans la.
J'ai vu aussi dans la
presse écrite, ouais. Mais on comprend pas. Hein, bien.
Publicité gouvernementale, c'est ça le statut.
Publicité gouvernementale, ouais. 4,3 millions d'euros hein, pour cette campagne qui va durer 3 semaines juste avant les vacances, peut-être pour donner un peu le moral aux Français avant de partir en vacances par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais en même temps, à côté, on a vu hein, ce qui se passait pour la sécurité sociale, puis il y a plein d'autres choses. Et donc, c'est 3 mesures qui sont mises en avant, c'est ça?
Trois ou quatre mesures.
Qu'on a du mal à comprendre. Enfin, c'est le.
Bah, il y a le dispositif des heures supplémentaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
La caution. Un mois de caution.
Pour les étudiants si j'ai bien compris, les étudiants qui prennent un logement ont un mois de caution au moins à donner. C'est bien ça?
C'est possible.
Ouais, et puis l'exonération d'impôt sur le revenu des emplois étudiants. Mmh. La défiscalisation, voilà, hein, pour être simple, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'exonération d'impôt sur le revenu des emplois étudiants et la diminution du montant de la caution locative à un mois de loyer.
Pour tout le monde, il me semblait
qu'au départ c'était pour tout le monde.
Pour tout le monde. Les étudiants, c'est l'exonération d'impôt sur le revenu des emplois étudiants.
D'accord. Hein.
Donc voilà, donc je pense qu'avec tout ça, effectivement, on peut partir en vacances avec beaucoup d'argent, Laurent, non?
Bah oui, puis bon, alors ce qui paraît vraiment, enfin c'est incroyable parce que c'est un aveu de faiblesse absolument, absolument inouï. Bon, alors on se demande toujours comment ça peut être perçu par le public, mais peut-être que certaines personnes n'y verront pas le mal. Mais tout de même, être obligé, pour faire passer l'idée de ces mesures, de recourir à la publicité, qui pour le cas présent, c'est presque une forme de propagande, c'est que, véritablement, il y a une espèce de déni de réalité, quoi. Si l'opinion publique ne sent pas les effets de l'augmentation du pouvoir d'achat qui résulte de nos mesures, il va falloir lui réexpliquer. C'est quand même un aveu de faiblesse extraordinaire de cette politique. Bon, et puis pour une cause tout à fait réelle, hein, c'est que le pouvoir d'achat n'augmente pas. Donc c'est pas le fait de faire de la publicité qui va corriger cet aspect-là. Et ça va d'autant moins augmenter que on aura une croissance économique relativement faible dans les 1 ou 2 ans qui viennent, et que pour beaucoup de salariés, les maigres augmentations salariales qu'ils auront obtenues déjà pour 2008 sont d'ores et déjà grignotées par l'augmentation des prix du pétrole. Donc, le gouvernement va avoir du mal à expliquer que l'augmentation du pouvoir d'achat peut provenir finalement essentiellement de mesures fiscales, hein, parce que là, les choses dont on parle, ce sont des mesures fiscales, alors que sur le long terme et dans la durée, les véritables augmentations de pouvoir d'achat ne peuvent être assises que sur une augmentation des revenus. C'est-à-dire des salaires pour 90% de la population.
Et puis, mesure fiscale, et puis bon, la mesure montant de la caution, hein, quand on loue un appartement, donc qui passe d'un mois de loyer, enfin 2 mois de loyer à 1 mois de loyer, là c'est, enfin, il n'y a aucun enrichissement, parce que bon, par définition, une caution, même si on doit avancer l'argent, on est censé la récupérer. Mais enfin bref, je pense que ça doit paraître dérisoire.
C'est-à-dire, le tort qu'ils ont là, c'est de mettre ça sur le compte d'une augmentation du pouvoir d'achat, parce que c'est le fond de la mesure, c'est vrai que quand on prête sa caution pendant 5 ans, on perd les intérêts qu'on aurait pu obtenir en prêtant cet argent. Bon, donc là, il y a effectivement une perte d'argent, et sur ce mois-là, cette perte ne sera plus encaissé par les locataires. Mais le fond de la mesure est quand même intelligent et il n'a pas à être justifié sous le regard du pouvoir d'achat. C'est que pour certaines personnes, cette sortie de trésorerie est quasiment impossible au moment où ça se présente dans leur cycle de vie.
Pour les propriétaires, c'est une baisse du pouvoir d'achat.
Tout à fait, pour les propriétaires, c'est une baisse du pouvoir d'achat, mais enfin bon, on ne s'est pas toujours solidarisé ici
mais ce sont bien des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat.
C'est un jeu à somme nulle, voilà. Tout à fait.
dans le même temps, peut-être un mot rapidement sur le SMIC, puisque bon, il y a eu des annonces qui ont été faites par rapport au SMIC, donc il y aura une revalorisation, mais il y a quand même un changement dans l'état d'esprit, c'est un retour, un retour au SMIC, hein, puisque là, on parle de SMIC. Et donc c'est un retour à ce qui se passait avant 68, c'est-à-dire le calcul du salaire minimum différent. Vous confirmez ou...
Non, mais le calcul de la revalorisation du SMIC, de toute façon, il n'a jamais été vraiment assis sur le taux de croissance. Il est assis sur le taux de croissance du salaire horaire de base ouvrier, et donc on fait la moyenne des salaires de l'ensemble des ouvriers, et puis on constate l'augmentation du pouvoir d'achat de ce salaire, et les augmentations du SMIC sont déclenchées par rapport à ces augmentations dans une certaine fourchette. Bon, donc oui, c'est quand même lié à la croissance, dans le sens où l'ensemble des salaires ouvriers n'augmente pas s'il n'y a pas de croissance, mais c'est pas assis directement sur le calcul du taux de croissance par l'INSEE. Effectivement, là, ce qu'a annoncé le gouvernement, c'est que le coup de pouce serait le minimum du coup de pouce qu'il peut donner, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de coup de pouce, hein. C'est-à-dire que on se situe au minimum de la revalorisation exigée par le mécanisme d'indexation du SMIC. Voilà.
Alors que le SMIC est l'un des rares leviers que possède le gouvernement pour jouer sur les salaires dans le privé.
Alors effectivement, le SMIC est l'un de ces rares leviers. Autrefois, on avait tendance à penser que lorsqu'on rehaussait le SMIC ou lorsqu'on augmentait le SMIC, ça avait une répercussion assez immédiate dans la pyramide salariale, jusqu'à 1,3, 1,4 fois le SMIC. Bon, alors c'est devenu de moins en moins vrai, et aujourd'hui, quand on augmente le SMIC, ça se répercute beaucoup moins bien en bas de la pyramide salariale, ce qui fait d'ailleurs que de plus en plus de salariés sont payés au SMIC. Finalement, à chaque fois qu'on revalorise le SMIC, on augmente le nombre de personnes qui ne vont finalement pas décoller de ce niveau de revenu à partir du moment où ça tasse la pyramide des salaires vers le bas.
Pas très loin d'ici, dans un pays plat aussi.
aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti. Il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme à femme et tout tordu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux hommes dents n'aiment que l'argent et la crème au blanc. Il avait un plan pour un coup d'état, pour un pamping-pong à coup de bazooka. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme à femme et tout au dû, la mère Ubu. Ubu et le roi se rencontrent. Twist, ya ya ya. Après l'entrevue, tout à coup, merde, dit Ubu, et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul.
Toujours Arnaud, en pause musicale, on revient à des choses très sérieuses, graves. Bon, vous avez peut-être vu des images de l'incendie du centre de rétention administrative de Vincennes. Vous avez peut-être entendu parler. Non, Jean, t'as pas vu?
J'ai pas vu les images, non.
Bah, moi, j'ai une photo là sur dans le journal d'aujourd'hui, dans le Monde d'aujourd'hui. Donc ça brûle partout, quoi. Vous avez peut-être entendu parler, genre, je pense que tu as entendu parler, hein, de la directive non-retour, directive de la honte, qui a été adoptée par le Parlement européen. Je pense que tu en as parlé même dans ton émission en recevant Hélène Flotte, qui est députée européenne. Et donc la situation des étrangers en Europe, en France, ça s'arrange pas, ça évolue pas du tout, c'est de pire en pire. Et à Arras, il se passe aussi des choses, donc là c'est plus des jeunes, des enfants, c'est le réseau Éducation sans frontières, ESF.
Rapidement sur la directive dite de la honte, c'est comme cela que l'a qualifié la CIMAD. Centre œcuménique d'entraide, hein, qui est le seul organisme qui peut pénétrer dans les centres de rétention. Cette directive de la honte donc est une directive qui devait être adoptée à la fois par le Conseil des ministres de l'Intérieur et de l'immigration des différents pays de l'Europe et par le Parlement. Elle devait être adoptée dans les mêmes termes. Et le Parlement a adopté, le Parlement européen, c'est la honte, quoi. Il a adopté exactement dans les mêmes termes la directive. Il a même pas adopté le moindre amendement qui d'ailleurs aurait permis une rediscussion de la directive, une négociation avec le Conseil des ministres, etc. Et la directive est passée avec une large majorité. Hein. Mmh. Tous les amendements ont été rejetés très, très largement. Alors, bon, les caractéristiques de cette directive sont connues maintenant. C'est principalement un allongement de la durée de rétention en Europe, de 12, 14 jusqu'à 16 mois. Avec une sorte de double peine, c'est-à-dire la personne expulsée aurait une interdiction de demande de retour dans l'Europe de 5 ans. La systématisation de la rétention des parents avec les enfants et l'utilisation de pays tiers de transit pour des longues périodes. Bon, c'est un peu le contexte aussi dans lequel évoluent les étrangers en France. Hein. C'est un contexte général et qui a des traductions très très précises, très très concrètes sur le quotidien des gens dans les centres de rétention. Alors qu'en France, la durée maximale de rétention est d'un mois en gros. Hein. Et les gens y passent en moyenne 10 jours, parce que de toute manière, au-delà d'une semaine, les démarches administratives nécessaires pour l'expulsion sont inutiles. Il est inutile de dépasser ces jours-là. Malgré tout, de plus en plus, les gens restent longtemps dans les centres de rétention dans des conditions de surpeuplement très importantes. C'est ce qui s'est passé à Vincennes.
Et
à Vincennes, depuis des mois, les choses étaient explosives. Donc il y a eu un décès, il y a eu une révolte, et voilà, bon, ça c'est comme ça. Et on a vu à cette occasion la mise en cause de RESF. Alors, c'est vraiment hallucinant, quoi. Alors, RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, qui regroupe à la fois des enseignants, des parents d'élèves, les organisations syndicales de l'éducation nationale, enfin, ce genre de réseau qui défend donc les jeunes qui sont scolarisés et qui sont soit à 18 ans, qui se retrouvent sans papier, soit qui sont enfants de parents sans papier. Et les cas deviennent de plus en plus nombreux, évidemment dans les grandes métropoles, mais aussi, par exemple, à Arras, phénomène qu'on ne connaissait que peu auparavant.
Donc là, il y a plusieurs cas à Arras.
Donc là, il y a plusieurs cas. Bon, il y a eu le cas de Ephraim, faut dire un mot peut-être, à Anatole France, jeune érythréen. Mmh. Et donc là, la situation, grâce à la mobilisation des parents, des enseignants, et puis autour de RSF, ça a permis quand même que la maman obtienne un titre de séjour provisoire qui lui permette de faire sa demande d'asile politique en France, à partir de la France, parce qu'on lui demandait de partir en Italie, parce qu'elle était passée par l'Italie dans son périple venant de l'Érythrée. Et il y a de fortes chances donc qu'elle soit régularisée. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, donc, il y a trois autres cas. Deux jeunes chinoises qui sont scolarisées au lycée professionnel Savary, hein, toujours sur Arras. Deux jeunes chinoises isolées, donc qui sont devenues majeures. Donc jusqu'à leurs 18 ans, elles sont protégées par la loi. Elles ne sont pas expulsables. Hein, elles sont isolées sans parents. Hein. Elles ne sont pas expulsables. Mais à 18 ans, le problème se pose de leur expulsion. Donc elles font évidemment une demande de titre de séjour et elles avaient eu des obligations à quitter le territoire. Elles ont eu, grâce à la mobilisation, des titres de séjour, mais des titres de séjour étudiants. Et donc, à la fin de leurs études, ce qui est le cas maintenant, là, puisqu'elles ont passé leur bac pro, on leur demande de retourner en Chine, où elles n'ont plus de famille. Enfin bon, situation très dure. Donc il y a une mobilisation autour de ces deux jeunes chinoises, à la fois de leurs copains, leurs copines du lycée Savary, mobilisation des enseignants et de la direction administrative de l'établissement, et puis tout autour de RESF. Donc ça, c'est le cas des deux jeunes chinoises.
Avec une pétition, genre.
Voilà, une pétition donc pour Liyi, la première chinoise, et une pétition pour Lin Tianlan, qui est la deuxième jeune chinoise. Et puis un troisième cas.
Et pour signer la pétition, genre.
Alors on va le dire parce qu'il y a trois pétitions en tout, donc c'est le même processus pour les signer. Et puis donc il y a un troisième cas qui est le cas. Donc là c'est une autre situation. C'est Anna, une petite Georgienne, donc qui est à l'école maternelle Séverine, toujours à Arras.
Centre-ville.
Voilà. Donc les parents donc sont en France. La mère a un titre de séjour provisoire pour raison de santé. Et le père a une obligation à quitter le territoire. Il doit savoir, je crois, demain ou après-demain, enfin, le 25 ou le 26 juin, si sa demande d'asile est satisfaite ou pas par l'OFPRA. Mais en attendant, il a une obligation à quitter le territoire. Donc là, l'enfant, cette fois-ci, n'est pas protégé par le fait que un des parents peut être expulsé. Et le père peut être mis en centre de rétention. Et à ce moment, on peut mettre aussi l'enfant avec la famille. Hein.
Avec le père. Alors que la mère...
Oui, mais le titre de séjour est provisoire. Quoi, hein. Donc là, il y a une mobilisation des parents, des enseignants de l'école Séverine pour que Anna puisse rester scolarisée dans l'école avec ses copains, ses copines et avec ses parents, donc en France. Donc il y a une pétition des parents et des enseignants qui est signée dans l'école. Et cette pétition est doublée d'une pétition autour de RESF qui demande pour que l'enfant soit stabilisé, que les parents aient tout simplement un titre de séjour. Alors pour ces trois pétitions, pour Lili, pour Lin Tian Lan et pour Anna, il suffit pour signer la pétition d'aller sur internet sur le site de RESF. Donc vous tapez RESF sur un moteur de recherche, vous tombez sur le site de RESF et vous choisissez RESF Nord-Pas-de-Calais. Et dans le menu RESF Nord-Pas-de-Calais, il y a un chapitre pétition. Vous allez tomber sur les pétitions de ces trois cas. Voilà, on signe en ligne comme ça.
Ce qui est important, puisqu'on arrive à une période difficile pour ces jeunes hein, qui sont scolarisés. Voilà, c'est ça. Hein, donc on a 2 mois là où ils sont pas scolarisés, donc les soutiens diminuent. Il n'y a pas de mobilisation dans les écoles, donc c'est une période difficile.
Voilà.
Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of a mother's little helper. And it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she burns her frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, gets her to her busy day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took 4 more for the drag. It is getting old. Men just aren't the same today, I hear every mother say. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your mind, so you go running for the shelter of a mother's little helper. And to help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took 4 more. What a drag it is getting old.
just much too hard today. And I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper that just help you on your way through your busy dying day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more.
Ça a commencé par erreur. C'était les fêtes de Noël et j'avais appris par le pochard en haut de la côte qui faisait le coup à chaque Noël qu'ils embaucheraient carrément n'importe qui. Alors j'y suis allé et sans avoir le temps de réaliser, je me suis retrouvé avec une sacoche en cuir sur le dos à cavaler comme bon me semblait. Parler d'un boulot que je pensais peinard, il vous donnait juste un ou deux pâtés de maison à faire et si vous arriviez à finir, le facteur titulaire vous en donnait encore un autre à distribuer ou alors vous pouviez rentrer et le chef vous en donnait un autre, mais surtout vous preniez bien tout votre temps pour fourrer ces cartes de Noël dans les fentes. Je crois que j'en étais à mon second jour comme intérimaire de Noël quand cette grosse bonne femme est sortie et s'est mise à marcher avec moi pendant que je distribuais les lettres. Ce que je veux dire par grosse, c'est qu'elle avait un gros cul et des gros nichons et qu'elle était grosse à tous les endroits qu'il fallait. Elle avait l'air un bras toqué, mais je continuais de regarder son corps et je m'en foutais. Elle causait et causait et causait. Ensuite, elle l'a quand même sortie. Son mari était officier sur une île lointaine et elle se faisait seule. Vous savez ce que c'est, et elle habitait toute seule dans cette petite maison là derrière. Quelle petite maison, j'ai demandé. Elle m'a écrit l'adresse sur un bout de papier. Moi aussi, je me sens seul, j'ai fait. Je passerai ce soir et on causera. Je vivais à la colle avec une nana, mais la nana était barrée la moitié du temps, barrée je ne sais où. Et c'était pas des blagues. Je me sentais seul. Je me sentais seul pour ce gros cul-là devant moi. D'accord, elle a dit, à ce soir. C'était un bon numéro, il n'y a pas, elle baisait bien, mais comme avec toutes les baises, après le troisième ou quatrième soir, j'ai commencé à me désintéresser et j'y suis pas retourné. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser, bon Dieu, tout ce que ces facteurs font, c'est amener leurs lettres et tirer leurs coups. C'est le boulot qu'il me faut, oh oui, oui, oui.
Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim.
Spécial dédicace à mon facteur. C'est marrant comme on peut s'approprier un facteur. Donc spécial dédicace à Dédé, facteur sur le quartier Méolens d'Arras. Un extrait d'un roman. Je pense que c'est l'auteur préféré de Jean, Charles Bukowski. Ça s'appelle Le Postier. Non, je vous ai cité cet extrait parce que, bon, c'est pas pour parler du postier de Charles Bukowski, c'est vous parler d'une biographie consacrée à Charles Bukowski, écrivain américain, 1920-1994, qui vient de paraître. Ça s'appelle Charles Bukowski, une vie de fou. Et effectivement, quand on lit la vie de Bukowski, bon, on n'apprend pas grand chose. Si on a lu les textes, à la fois la poésie et les romans de Bukowski, mais néanmoins, quand c'est une biographie vraiment vraiment vraie, c'est impressionnant. Donc c'est de Howard Souns, ça s'appelle Une vie de fou, édition du Rocher. En même temps, ça donne envie de relire Bukowski, Le Postier, qui est, je pense, on peut le dire, bon, qui a été écrit lorsque Bukowski avait 50 ans et tout un passé donc de postier. Hein, il a bossé dans la poste, etc., dans des centres de tri. Il a arrêté de bosser à 50 ans. Il s'est lancé dans l'écriture. Il a pris des risques. Et il a commencé donc à être publié, à être connu, à devenir célèbre, etc., avec toute une légende de provocation et la fameuse émission apostrophe en France. Il a d'ailleurs jamais refait d'émission de télé. Hein, ça lui a suffi, même aux États-Unis, etc. Et donc le postier. C'est quand même un roman qui évoque le monde du travail de manière très intéressante. Et donc, et ça tombe bien, Jean, parce que toi, tu m'as rendu un supplément là du monde des livres qui fait sa une sur quand l'usine devient un roman. Et je sais que c'est quelque chose que tu connais, c'est des salariés d'une usine Roussel-Uclaf dans la région parisienne.
À Romainville,
voilà. Hein, donc, qui, grâce à un écrivain, Sylvain Rossignol, on fait revivre leur travail et leur combat puisque cette usine a fermé. Donc peut-être tu peux dire citer quand même le bouquin, Jean. Non, tu le.
J'ai pas les références sous les yeux. C'est les éditions de la Découverte.
Voilà.
L'auteur, alors, c'est Sylvain Rossignol, je crois. Hein,
alors voilà, mon usine est un roman de Sylvain Rossignol, voilà. À la Découverte. C'est ça, hein, Jean. Et donc, il y a beaucoup de littérature. À Arras, on le sait, il y a le Salon du Livre d'Expression Populaire de Critique Sociale sur tout ça. Mais Le Postier de Charles Bukowski, c'est de la vraie littérature sur le monde du travail. Voilà, ça, c'était un bouquin.
Un bouquin emmené en vacances.
Emmené en vacances. Donc, la bio de Charles Bukowski, puis tout Charles Bukowski. Hein,
d'accord.
Mais on commence par Le Postier.
Alors, on est dans la rubrique bouquin, là. Hein. Laurent, toi, t'as choisi des choses aussi.
J'ai choisi quelque chose d'un peu plus léger. Enfin, je vous propose une incrémentation en deux bouquins pour cet été. Il y en a un que je viens de terminer et qui m'a vraiment énormément plu. C'est un ouvrage de Pascal Fioretto qui s'appelle « La joie du bonheur d'être heureux ».« La joie du bonheur d'être heureux » et c'est même inscrit en sous-titre « Enrichi en oméga 3 ». Eh bien, cette personne... On peut pas dire que c'est un roman, enfin c'est presque un roman, c'est l'histoire d'une dame qui tient son journal, enfin qui se met à écrire son journal, et ça dure à peu près un an, et cette dame est partie à la quête du bonheur.
Voilà. Elle a dû croiser Charles Bukowski peut-être, non ?
Alors oui, croiser, mais alors sur un autre trottoir, d'un autre trottoir, et voilà, tout ce livre et ce journal, quasiment jour par jour, de cette femme qui part sincèrement, très résolument, à la quête de son propre bonheur, alors que, comme elle le dit, tout allait bien pour elle, bien entendu, et c'est absolument ravissant. L'affaire est rigolote du début à la fin. On passe évidemment entre les mains de tous les charlatans pendant un an de la vie de cette femme, qui tombe quasiment dans tous les panneaux des faiseurs de bonheur. Et le propos est tenu alerte et rigolo, malin, futé, profond même, sur l'ensemble du livre. On peut peut-être vous lire quelques lignes, puisque notre copain Guy nous en a lu quelques-unes tout à l'heure.
Brillamment.
Ouais, pareil. Hein. Bon, alors le premier chapitre s'appelle « Un temps pour cesser d'arrêter de fumer ». D'accord. Donc la méthode pour cesser d'arrêter de fumer. Par la méthode simple et définitive, bien entendu. Mardi 1er janvier, jour de l'an. Michel traîne en jogging, un peu désœuvré. J'ai feuilleté le dernier numéro de Psycho Plus. Il y a un dossier intitulé « Devenir soi-même en mieux ». Dans l'édito, Sébastien, Stéphane, Schreban, Cerver rappellent que nous valons beaucoup mieux que nos petites vies, toutes grises, toutes semblables, toutes rabougries, sous le poids des renoncements et des conformismes. Il explique que chacun d'entre nous a une légende à écrire en lettres de feu sur le parchemin de son existence et que pour commencer à devenir soi-même, il faut accepter de faire le premier pas dans le vide. La voilà, ma résolution pour cette année. Me rendre disponible à l'inconnu, provoquer le changement, marcher dans le vide et observer ce qui se passe. Catrès dit aussi que si l'on accepte de lever les yeux et de regarder autour de soi, on fait forcément une rencontre. On découvre que quelqu'un nous attendait quelque part pour nous faire sortir de notre chrysalide et nous métamorphoser en nous-mêmes. Est-il possible que ce soit aussi simple? Je lève les yeux de mon cahier, il fait nuit, d'où viendra la rencontre? Michel sommeille devant la télé, notre petit appartement est encore en désordre et une nouvelle année de boulot chez JNJNJ m'attend demain. Tout semble devoir durer indéfiniment. Par où commencer? Donc là c'était mercredi 2 janvier, par où commencer? Arrêter la cigarette peut-être? Dans Psycho Plus, il parle beaucoup de la fameuse méthode révolutionnaire d'Alan Kerr pour en finir avec l'arrêt du tabac. J'ai acheté le bouquin et je me suis aussitôt plongé. C'est très agréable à lire. Pas de morale, pas de prêchi-prêcha. Alan demande qu'on fume tant qu'on n'a pas fini de lire son livre. Car le fait de lire signifie qu'on est déjà non-fumeur. Donc pas de manque, pas de patch, pas de kilos en plus. J'adore cette façon très anglo-saxonne de dédramatiser les problèmes. Voilà. Et tout le... tout l'ouvrage est à l'avenant. Ça va jusqu'à la fin, évidemment, la décrépitude dans une secte qu'on imagine être celle de l'église de Scientologie.
Bon, alors moi, je vais vous proposer deux bouquins. Alors là, c'est pour gâcher vos vacances. Le premier a déjà 11 ans, hein, il est de 1997. L'autre est tout récent, il est du mois de juin.
Un à la fois, hein, Jean, comme
ouais,
moi.
Un pour commencer, mais je donnerai le deuxième en même temps parce que ça s'enchaîne. Hein. Donc, livre vraiment noir, Guy, là, vraiment du noir, noir, noir. C'est pas du roman, hein, c'est un ouvrage théorique. Donc, de James Samproun, bon, il faudrait le dire à l'espagnol, mais je sais pas le faire. Le titre du livre s'appelle, le titre est L'abîme se repeuple. Et je vais vous lire simplement le début de l'introduction. Parler du monde actuel comme d'un cadavre en décomposition n'est pas simple facilité rhétorique. C'est une image, mais de celles qui servent à imaginer juste. L'ayant à l'esprit, on distingue mieux ce qu'on a sous les yeux, et toutes sortes de phénomènes, sinon passablement déroutants, deviennent intelligibles. À commencer justement par ce sentiment universel qu'il est désormais inutile de chercher à connaître, de façon plus scientifique et détaillée, le fonctionnement de la société mondiale. En dehors de ceux qui sont rétribués pour fournir des simulations théoriques, cela n'intéresse personne de savoir comment elle marche exactement, et d'abord parce qu'elle ne marche plus. On ne fait pas l'anatomie d'une charogne dont la putréfaction efface les formes et confond les organes. Voilà, ça commence bien. Ça commence difficilement, durement, et c'est à l'image du livre. L'abîme se repeuple, Guy, c'est une référence à Jack London, hein, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le peuple de l'abîme. Mm-hmm. Là, c'est l'abîme se repeuple. Et il y a une petite citation d'ailleurs de John London dans Jack London dans le livre, où on parle des foules de l'abîme pour lesquelles la mort ne signifie rien et la vie pas davantage, qui n'ont rien à perdre mais n'ont plus rien à gagner qu'une orgie finale et terrible de vengeance. Alors enchaîné avec ce livre-là qui est un peu dans le prolongement.
Donc, enchaîné avec Jack London alors. Non
avec le précédent livre, donc un livre du même auteur mais co-signé par René Rizel, donc qui fut l'un des secrétaires nationaux de la Confédération paysanne et qui a payé par la prison longue et sans publicité son action contre les OGM. Et le bouquin s'appelle Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. Alors pour ces deux livres, il faut citer les éditeurs et comment les obtenir, parce que c'est pas évident. Donc ce sont les éditions de l'Encyclopédie des nuisances, et il suffit d'écrire au 80 rue de Ménilmontant dans le 20e arrondissement de Paris.
Il n'y a même pas de site internet là.
Il faut
écrire.
Ah, non,
alors
non,
redonne l'adresse. Hein,
édition de l'Encyclopédie des nuisances, 80 rue de Ménilmontant, Paris 20e.
Et en même temps, il faut lire hein, Jack London, qui est réédité là, dans une collection de poches Phébus. Et c'est vraiment super, hein, Martin Eden et compagnie. Ça, c'est des bonnes lectures de vacances.
D'accord. Le Talon de Fer aussi. Hein.
Le Talon de Fer. Ils sont tous réédités là. C'est super. Laurent, donc toi, ton bouquin, là, La joie du bonheur d'être heureux. Bah, donc c'est une dame. Hein. Donc c'est La joie du bonheur d'être heureuse. Et
oui.
Alors c'est écrit par Pascal.
Oui, c'est un... et donc bah, ça arrive en littérature.
Il n'y a pas de haut, Pascal.
Non. Ouais, ça arrive en littérature qu'un auteur homme se glisse dans la peau d'une femme. Ouais. Mais Jean, il m'a piqué ma transition parce que je voulais donner une suite aussi à cette lecture très rigolote, mais celle que donne Jean est tout à fait à propos. Il va y avoir concurrence parce que si je suggérais pour faire suite et plus sérieusement au bouquin de Pascal Fioretto, je suggérais de relire ou de lire La culture du narcissisme de Christopher Lasch, parce que finalement l'entrée dans Christopher Lasch est quelqu'un qui décrivait son époque, pour aller vite, avec un petit peu d'anticipation, et qui essayait de saisir ce qu'on pourrait appeler l'esprit de son époque, quoi. Dans quel monde on vit et comment les gens perçoivent ce monde, en essayant de reproduire l'exotisme dans lequel on devrait être si on le regardait d'un petit peu plus loin qu'on le regarde d'habitude. Et l'entrée dans ce bouquin de Christopher Lasch, finalement, c'est vraiment sur la question du narcissisme et sur la question du bonheur qui n'est plus pensé que de manière purement privée, et pire que purement privée, les gens partant pour chercher le bonheur à la quête du moi, quoi. Comment moi me réconcilier avec moi et faire un tour sur moi-même. Et ces deux bouquins se font vraiment vraiment suite, mais pour indiquer tout de même qu'il n'est pas question que de cela dans le bouquin de Lâche, finalement c'est très très proche de ce que tu viens de lire de James Emprin, et donc je peux lire les premières pages du bouquin qui font vraiment écho à ce que tu viens de lire. À mesure que le XXe siècle, donc c'est Christopher Lâche, La culture du narcissisme, à mesure que le XXe siècle tire à sa fin, la conviction grandit que bien d'autres choses aussi vont finir. Des avis de tempête, des présages de malheur, des allusions à des catastrophes hantent notre temps. Le sens des choses en train de finir, qui a donné forme à tant de productions littéraires du XXe siècle, s'est maintenant largement répandu dans l'imagination populaire. L'holocauste nazi, la menace d'une annihilation nucléaire, l'amenuisement des ressources naturelles, les prédictions justifiées d'un désastre écologique ont accompli les prophéties poétiques en donnant une substance historique concrète au cauchemar ou au désir de mort que les artistes d'avant-garde furent les premiers à exprimer. Ensuite, il explique qu'il y a différentes stratégies pour essayer de faire avec cette catastrophe annoncée. En gros, il y a la stratégie de la réclusion, s'enfermer et fuir le monde moderne dans des communautés campagnardes. C'est écrit dans les années 80. Hein. Fuir le monde moderne et donc aller se barricader à la campagne, ou au contraire, voir la survie ou les stratégies de survie dans un délire technologique. Et il termine comme ça en disant, c'est le début du bouquin quand même. Ces deux stratégie reflète la perte de tout espoir de changer la société et même de la comprendre. Et c'est ce qui sous-tend également les cultes de l'expansion de la conscience, de la santé ou du développement personnel si répandus aujourd'hui. Donc c'est quand même assez,
ça se rejoint,
assez
effectivement. Homomorphe.
Voilà, donc il faut peut-être prendre les trois bouquins et les lire l'un à la suite de l'autre.
Alors Guy, toi tu as un deuxième livre aussi ?
Ouais, un petit. Donc là on revient dans une actualité sportive. J'ai 3 minutes, donc il y a 44 jours, le bouquin ça s'appelle 44 jours et moi j'ai 3 minutes pour en parler, de David Peace, c'est titre original, sous-titré Damned United. C'est un livre sur le foot, donc c'est l'actualité, mais l'envers du foot. David Peace, c'est chez Rivage Thriller, hein, une collection de romans noirs. C'est un auteur de romans noirs, un auteur anglais, mais qui explore aussi d'autres domaines. Il avait sorti un bouquin qui s'appelait GB84 il y a un an et demi sur la grande grève des mineurs sur Margaret Thatcher.
Mais tu nous l'as pas déjà conseillé ce livre ? Non, mais celui-là.
Ah non, celui-là il est sorti il y a 15 jours. Hein,
ah
donc,
bon,
contre GB84, je l'avais conseillé.
Ah, hein.
Et donc c'est un regard sur ce conflit. De l'intérieur, hein, c'est-à-dire que il se met dans la peau d'un syndicaliste, d'un patron, etc. Et donc il y a alternance de situations. Et là donc c'est une plongée dans les années 60 au pays du football, à fin des années 60 en Angleterre. Et David Peace se glisse dans la peau de Brian Clough. Alors Jean, ça te dit quelque chose ? C'était un grand joueur de foot anglais qui a été blessé à la fin des années 60 et qui est devenu un très très grand manager de foot en Angleterre, et notamment donc il a amené une équipe anglaise, Derby County, au titre de champion, alors que c'était une équipe moyenne. Ensuite, il est devenu entraîneur de la grande équipe anglaise de l'époque, Leeds United. Et alors donc on croise des footballeurs, Kevin Keegan, etc. Il y a tout un tas de noms hein, qu'on connaît, mais c'est vraiment c'est l'envers du décor hein, du monde du football, les techniques de management. Et puis bon, c'est le pays du football, mais c'est aussi le pays du football professionnel, donc les joueurs qui sont des pions, les entraîneurs aussi. Mais il y a une ambiance qui paye hein, parce que ça se passe dans les années, dans le foot des années 70. Au début, tout le monde fume, tout le monde boit hein, les joueurs après le match dans le bus, voilà, il se passe des clubs, etc. Ils boivent un coup. C'est vraiment étonnant. Et manager, le premier, quoi. Hein. Et donc, ce manager-là, dont on suit l'histoire, enfin, 44 jours, c'est les 44 jours qu'il a passé dans le club de Leeds. Un club qui était champion, qui avait perdu son entraîneur, c'est lui qui est arrivé. Mais bon, il a perdu les 5 premiers matchs du championnat et il s'est fait virer. Bon, il a rebondi après. C'est l'histoire de ces 44 jours avec une déprime de Brian Clough et beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes. Donc voilà, c'est ça le foot.
Eh ben, c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte et ce journal de Tumulte. Hein. Guy et Laurent, à bientôt.
À bientôt, bonnes vacances.
À la prochaine.